Beat.
Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport.
L'alignement des Maple Leafs est sorti. En fait, j'aimerais dire l'alignement des Marlies de Toronto est sorti pour le match de ce soir. Et je pense que ça, c'est un plus grand manque de respect que d'habiller Cédric Parry. Honnêtement, il n'y a personne dans l'alignement ou à peu près. Tellement que Scott Laughton se mérite de pivoter le premier trio ce soir sur la patinoire du Centre Bell. Vous dire à quel point c'est mince. Et même dans un match de Ligue nationale de hockey, dans un match préparatoire, Michael Pezzetta est encore sur la quatrième ligne.
Eh là là.
C'est Pezzetta, Grou et Terfberg ce soir qui seront dus à quatrième trio, mais Cédric Parry n'est pas là. Nick Cloutier, salut!
Salut les gars!
Comment tu vas?
Ah, je vais très bien. Un autre soir de match, comme tu dis, les évaluations vont être un peu plus compliquées, mais j'ai hâte de voir si Rohrer sera encore de la formation. Je vous avais pas menti au sujet de ce gars-là.
Non, puis tout le monde en parle présentement. Il a joué un bon match l'autre jour, il prend sa place. Puis tu sais, là, on est dans ce qu'on appelle l'entonnoir. Plus les matchs avancent, plus ce que tu essaies de faire, c'est de te mériter un autre match. Puis tu sais, tout le monde est capable de comprendre que si tu retournes dans l'alignement, c'est soit qu'on veut en voir plus ou qu'on te donne une chance de te reprendre pour des choses que tu n'as pas fait. Puis il y en a qu'on va peut-être laisser sur les lignes de côté, de qui on en a vu assez, puis qu'on a déjà une bonne idée de ce que ça va donner pour les prochaines semaines.
Oui, exact. Tu parles de Owen Beck, après la performance qu'il a donnée, peut-être qu'on a moins besoin d'agrandir l'échantillon dans son cas, ou encore peut-être qu'on veut voir s'il est capable de répéter. Mais il y a des joueurs comme Joshua Roy, pas nécessairement fourni ce qu'il aurait aimé fournir l'autre soir. Alors je ne serais pas surpris qu'on lui donne une autre occasion. Et même Florian Jacquet, ce serait intéressant qu'on en parle aussi parce que j'étais le premier là vraiment à m'enthousiasmer au sujet de Florian. Je vais être celui qui trouve que le hype est devenu un peu démesuré après le match de mardi soir parce que moi j'étais au Centre Bell et qu'on s'entend, Florian a quand même connu un bon match. Bon, il l'a fait parler de lui, mais il a marqué, soyons honnêtes, sur un tir qui est faible.
Oh oui, comme on dit dans le jargon du hockey, un tir que le gardien de but aimerait revoir.
Voilà, et Deslauriers lui a fait une fleur en lui offrant un combat, c'est correct, il a montré du courage.
Il était poli.
Et sinon, il n'a pas énormément eu de touches de rondelles, on ne l'a pas nécessairement beaucoup vu dans ce match. Je sais qu'il a réussi à faire parler de lui et à se signaler, à se faire remarquer quand même, mais de là à dire que, il est au plus fort de la course là, pour un poste à cause de ce match-là, Florian est capable de faire beaucoup mieux que ce que vous avez vu mardi soir.
Ouais, puis tu sais, moi j'ai hâte de voir dans l'alignement qu'on va présenter justement, parce que là celui des livres c'est sorti, puis tu peux pas t'ajuster en fonction de ce que l'autre équipe met sur la patinoire, ça c'est officiel. Sauf que là, il y a à peu près personne chez les Leafs. Puis tu sais, on s'attendait pas à voir Austin Matthews puis William Nylander, si on comprend, mais pas de Nicolas Roy, pas de Max Domi. Je l'ai dit, Lawton est là, McMahon est là, Dakota Joshua est là, pas de Matthew Niles. Tu sais, les Leafs prennent leurs décisions, les Canadiens prennent les leurs. Il y en a de qui on veut en voir plus. On va venir à Luke Hughes puis à Lane Hudson, mais je veux qu'on parle de David Reinbacher parce que ça a beaucoup fait jaser cette semaine. Puis j'ai eu la discussion dans les estrades au Centre Bell avec un de mes chums qui m'a dit « Colin, me semble que Reinbacher, il est plate comme joueur. » Oui, il est pas flashy. Et c'est ça qui va lui nuire toute sa carrière à cause de son tag de cinquième.
Ben oui, à cause de son cinquième show total, j'avais la même discussion, une discussion animée là, dans l'ascenseur du Centre Bell avec mon bon ami Lachouine, Mathieu Chouinard.
Ah oui, ben oui, salut Chouine.
On salue Chouine, lui n'était pas d'accord avec moi évidemment. T'sais, David Reinbacher, là, les partisans sont déçus après une performance coup-ci, coup-ça dans un match préparatoire. Et là, on est en train de questionner la décision des Canadiens de le sélectionner au cinquième rang.
Oui, mais il a manqué un an de hockey aussi. Il faut lui dire.
Si on inclut les séries éliminatoires, là, David Reinbacher n'a même pas joué 25 matchs la saison dernière.
Ouais,
alors,
ça.
Ce qu'on a vu mardi soir, c'est un défenseur qui prenait une seconde de trois avec la rondelle, qui était hésitant parce qu'il n'a pas encore trouvé son rythme de match. Mais les mêmes outils qui ont justifié sa sélection au cinquième rang, ils sont pas évaporés, ils sont encore là. Et dans deux ans, le discours des partisans, regarde bien ça, il va changer sensiblement parce qu'on va réaliser à quel point on est chanceux d'avoir un défenseur droitier comme Reinbacher dans la formation. Et Reinbacher, il a le potentiel d'être l'un des défenseurs les plus complets du CH, sinon le plus complet dans quelques années. Il a tous les outils qu'on recherche un défenseur. Il a le coup de patin qui est fluide, la prise de décision avec la rondelle. Il est capable d'avoir un impact sur 200 pieds. Écoute, il est fait comme un frigo là sur 6 pieds 4. Je te dis, Max, tu le mets sur le marché demain matin, il y a 31 directeurs généraux qui logent un appel. Alors, arrêtons avec David Reinbacher et moi, je te le garantis, en tout cas. Je te garantis, puis il y a bien des équipes qui ont essayé de s'avancer pour le repêcher au cinquième rang à ce repêchage-là.
Je pense que la déception vient plus du fait que c'est un cinquième choix au total, mais tu vois pas les flashs d'un cinquième choix au total. Tu vois pas nécessairement
mais c'est upside. Pas dans sa game.
Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas dans sa game, c'est qu'on pense cinquième choix. Tu sais, on peut penser à des Heiskanen, à des Kale McCarr, à des même un, tu sais, Evan Bouchard, c'est un choix top 10, des gars comme ça Moritz Seider, qui ont été sélectionnés à des rangs très élevés, qu'il y a comme des affaires qui sautent aux yeux. Mais c'est jamais le cas avec Reinbacher.
Même Heiskanen, Oli, c'est pas nécessairement le gars. Oui, il est probablement plus spectaculaire que Reinbacher, on s'entend là-dessus, là, mais il est pas spectaculaire à tous les matchs non plus, là, Heiskanen.
Non, mais c'est quelqu'un qui va contrôler le jeu, tout ça.
Oui.
Ouais.
Oui, oui. Puis on est d'accord. Et c'est peut-être là un peu le problème avec son cinquième rang de sélection. Moi, je l'aurais pris quand même au cinquième rang. Les gens, il faut qu'ils comprennent qu'au cinquième rang, tu repêches pas juste des joueurs qui vont marquer 40 buts ou des défenseurs qui vont récolter 60 points dans la Ligue nationale. Puis, un gars comme David Reinbacher, un défenseur droitier, ça, c'est un profil qui est encore plus rare, soit dit en passant, qui va manger peut-être 23, 24, 25 minutes par match contre les meilleurs éléments adverses et qui va avoir un impact sur 200 pieds. Ça vaut son pesant d'or et ça vaut certainement le cinquième choix au total dans la Ligue nationale de hockey.
Puis tu sais, quand tu l'as mentionné tantôt, il est droitier, ça fait fois tout pour bien des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Puis c'est peut-être ça aussi qui a... OK, c'est sûr que le retour pour Logan Mailloux, c'est Zach Bolduc, tout le monde est content de ça. C'est un one-for-one qui est ultra payant. Mais quand tu regardes dans ta banque d'espoir, puis tu te dis, ben Saint-Louis, on a zéro de défenseurs droitiers. Nous, on a Reinbacher. Notre plan à droite, c'est Reinbacher. T'es plus enclin à laisser partir un gars comme Logan Mailloux, sur qui t'as pris une chance à propos de ton brand, à propos de ton image. Parce que le Canadien, là, c'est ma tête sur le bio en allant repêcher Logan Mailloux qui disait à tout le monde, prenez-moi pas. Puis là, ils ont dit, non, on va le repêcher, on a un plan, ça va être correct. De laisser aller le gars sur qui t'as pris une chance, ça veut dire que t'as quelqu'un d'autre dans le viseur qui fait, OK, lui, il va remplir ce qu'on voulait. Fait que Reinbacher, c'est un peu ça. Mais pour le moment, je peux comprendre le partisan qui fait, ouais, Colin, m'attendais pas à ça. Tu sais, je m'attends, mais c'est ça.
Mais ça va prendre du temps. Je pense que en termes de développement, là, il a eu le parcours le plus malchanceux. Il y a 2 ans à Kloten, il a fait 3 entraîneurs différents. Ça a été parsemé de blessures à travers ça. Laissons-lui une année complète de développement dans la Ligue américaine avec Pascal Vincent et vous allez être vraiment surpris de ce que vous allez voir.
Oui, parce que justement, la bonne chose, c'est que cette année, Logan Mailloux sera plus à Laval. Alors, il va avoir du temps de jeu en masse à 5 contre 5, avantages, désavantages numériques, puis ça va être lui le défenseur numéro 1 du Rocket de Laval. Fait qu'il va en manger des minutes, puis l'an prochain au camp, ou peut-être même cette année pendant l'année, si jamais il prend du galon, peut-être qu'on va le voir avec les Canadiens.
Okay, les gars, vu que vous aimez ça les quiz, avant de parler de Luke Hughes, qui a été selon vous le meilleur cinquième choix au total de toute l'histoire du Canadien de Montréal?
Ben, Carey Price.
Carey Price, bonne réponse. Ouais.
Carey Price, c'est la seule
bonne réponse. On aurait aussi accepté Pierre Bouchard, mais on va y aller pour Carey Price. Ou Peter Svoboda, aussi, qui était dans les choix de réponse. Ton papier sur TVA Sports, Nick, ce matin, est vraiment très bon. On parle de la situation au New Jersey. C'est jamais bon pour un club quand un joueur vedette n'est pas au camp, faute de négociations contractuelles. Le message que ça envoie à l'équipe, le message que ça envoie dans la chambre, c'est jamais bon. Aux partisans non plus. Sauf que pour les Devils, c'est important, mais c'est encore plus important pour tous les autres directeurs généraux dans cette nouvelle ère de nouveau plafond salarial. Il y a des gens chez Quartex qui doivent attendre en maudit que le contrat de Hughes se signe parce qu'on négocie pour Lane Hudson présentement.
Oui, parce que c'est un dossier qui a lieu au New Jersey, pendant les camps d'entraînement. Alors, ça passe un peu sous le radar à Montréal, mais pourtant, ce dossier-là, qui est celui de Luke Hughes avec les Devils, a des implications énormes là, pour les Canadiens et pour Lane Hudson. Je pense que c'est sorti dans les médias que les Canadiens ont fait une offre à Lane Hudson au cours de l'été qui a été refusée. Et je pense pas non plus qu'il y ait eu de contre-offre de la part du clan d'Hudson jusqu'ici. Et pourquoi? Ben, essentiellement, les gars, c'est parce que le marché pour les jeunes défenseurs dans cette nouvelle économie de la LNH avec un plafond de 95,5 millions en furieuse hausse. Là, tu sais, on projette 104 millions l'année suivante et ça pourrait monter là d'ici la prochaine rencontre au bureau des gouverneurs. Il n'a pas été établi. Cette échelle salariale n'a pas été établie. Et là, en ce moment, il y a une espèce de waiting game à travers la LNH. Qui va être le premier à se mouiller? Qui va être le premier à vouloir établir cette échelle-là pour la Ligue nationale de hockey. Alors, c'est parce que cette échelle-là, c'est parce que cet inconnu-là en ce moment que, bon, on est encore un peu plus frileux du côté de l'agent de Lane Hudson pour faire un contrat pour Canadiens de Montréal. Et que si c'était seulement de Lane, je pense qu'on aurait peut-être déjà une entente.
Ah, il aurait signé, puis lui, il jouerait au hockey.
C'est ça, lui veut juste lancer ses patins, mais son agent est là pour lui rappeler qu'on ne veut pas signer un contrat qu'on pourrait regretter dans quelques années.
Ben c'est sûr. Puis, tu sais, regardant, mettons, le contrat de Luke Hughes, on comprend présentement là, qu'il est sur son contrat d'entrée de 3 ans, que ça va se terminer, que là, on négocie, que les chiffres sont là. Mais c'est parce que de marché en marché, de club en club, la réalité est tellement différente. Puis là, il ne faut pas commencer à comparer des gars qui ont plus d'ancienneté dans la Ligue nationale de hockey. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Mais dans le cas de Hughes, dans le cas de Lane Hudson, des jeunes joueurs qui sont bons rapidement... Tu sais, Lane Hudson, on sait même pas s'il va passer au travers la gang de la deuxième année. Je pense pas, honnêtement. J'ai pas l'impression que... Mais quel genre de contrat il va signer? Parce que là, tu viens de signer Dobson. T'as ton échelle, la fameuse échelle salariale du Canadien de Montréal qui ne tient plus aujourd'hui. Fait que si ça finit que... Puis là, je vais dire, je vais utiliser les mots gagner, là, mais si ça finit que Quartex gagne et que Lane signe un 8 x 10, après ça, dans la Ligue nationale de hockey, t'as un peu, là.
Ben écoute, tu vas être surpris là, parce que moi je pense que si chiffre commence par 9, Quartex va considérer ça comme une victoire, parce qu'il faut comprendre le rapport de force en ce moment. Lane Hudson n'aura pas de droit d'arbitrage quand il va jouer autonome avec compensation l'été prochain, et il ne sera pas non plus admissible à une offre hostile. Et Kent Hughes est un fin négociateur, il aura le gros bout du bâton là-dedans, et il faut pas oublier les gars que les Canadiens ont donné 9,5 millions par année à Noah Dobson, dans l'économie qu'on connaît aujourd'hui. Et en faisant ça, les Canadiens ont acheté 6 ans d'autonomie complète à Dobson. Hudson, tu achèterais seulement 3 années. Alors moi, je peux vous dire que selon toute logique, là, le montant annuel du contrat de Hudson, si on parle d'un contrat à long terme, là, sur 8 ans, ce serait sans doute en dessous là, du 9,5 millions de Dobson. Alors je pense que Quartex, on verrait ça comme une victoire si on réussit à aller grappiller ça jusqu'à 9 millions, surtout avec Kent Hughes, qui est un fin négociateur qui va vendre un projet, comme on avait vendu avec les Blues de Boston, de structure salariale, de bâtir une équipe qui est cohérente. 9,2, ce serait une belle victoire pour Quartex. Et si les Canadiens, par je ne sais quel moyen, réussissent à donner un contrat à Lane Hudson qui est entre 8,5 et 9 millions par année, ça va être une aubaine d'or.
Tu peux-tu, à cet âge-là, là, avec à peu près pas de poils sur le menton, tu peux-tu pas te présenter à un camp et revenir au camp après la signature, puis que tout le monde fasse comme si de rien n'était, puis tout le monde fasse « OK, c'est beau, t'avais raison de le faire ». Tu sais, l'agent de Luke Hughes, c'est Pat Brisson. Pat Brisson, là, il va se battre bec et ongles pour que dans son book, les comparatifs... Parce que les agents fonctionnent comme ça. Les agents... Oui, ils veulent que le joueur ait à obtenir du salaire, mais c'est aussi la pierre angulaire ou la première brique de la négociation du prochain contrat qu'il va signer, de son prochain contrat, en disant « t'as donné 9,5 à Luke Hughes, ben moi j'ai un tel, ben il est similaire à Luke Hughes, c'est ça le minimum. » Puis ben, ça va être long, là.
Ah, ça pourrait être long, mais il y a aussi le fait que les Canadiens ils savent que Lane Hudson veut demeurer à Montréal. Du moment que
Il y a une incertitude.
Luke Hughes, là, dans son cas, il y a d'autres leviers, dans le sens que il peut décider de négocions un contrat là, juste 5 ans parce que ça va m'amener à l'autonomie en même temps que mon frère Jack. Il y a d'autres leviers que tu peux jouer dans le cas de Luke Hughes que tu ne joueras pas dans le cas de Lane Hudson parce que lui, on sait qu'il veut juste jouer au hockey et qu'il veut jouer à Montréal. Lane Hudson, l'an prochain, là, s'il décide de ne pas se pointer au camp d'entraînement parce que il y a pas de contrat. Je tomberai en bas de ma chaise.
Ah non, faut jamais ça. Ils sont obligés de sortir de Brossard de force.
Ben, exactement.
Ils sont allés le voir, pour vrai, c'est une vraie histoire. Ils sont allés le voir la semaine dernière, ils étaient sur la patinoire. Ils ont dit, faut qu'on ferme la patinoire. Les employés s'en vont, ils ont fini leur journée. Ils étaient tout seuls, ils étaient chez eux. La glace était libre. Il s'est présenté, il patinait. C'est des gens du complexe CN Brossard qui sont allés le voir en disant, là, Lane, parce que faudrait qu'on s'en aille, là.
Ça fait un sort qu'il est pareil en plus.
Ah oui, c'est la même chose. Fait que, c'est deux personnalités bien, bien différentes. Puis je pense que, puis avec beaucoup de respect, là, tout le monde a sa façon de faire les affaires, mais Olivier chez Quartex travaille bien, bien, bien différemment. Et Sean Coffey travaille bien, bien, bien différemment que Pat Brisson. T'sais, Brisson, c'est un vieux de la veille, ça fait longtemps qu'il est là. Quand Pat Brisson t'appelle, tu réponds généralement. J'ai hâte de voir. J'ai bien, bien hâte de voir. Ça va être super intéressant.
En même temps, du côté de Sean Coffey, je pense que. T'sais, on va peut-être le juger sévèrement si les Canadiens réussissent à avoir avec Clint Hudson ce qui représente au Nobel, mais à cause de tous les critères puis à cause de la réalité que je vous ai exposée, ben ce serait pas vraiment de sa faute.
Non.
Et de toute façon, Hudson, il serait content. Il serait content avec ce scénario-là. Alors, ouais. Est-ce que tout le monde pourrait en sortir gagnant quand même si ouais. Bon, est-ce qu'on aurait pu grappiller le million de plus? Je pense pas que pour un gars comme Clint Hudson, ça ferait une énorme différence.
Puis le prochain de qui on va parler à Montréal aussi, là, puis là, on a du temps en masse, là, et il est également un client de Sean Coffey, c'est Jacob Fowler.
Ouais. Mm. Ce ne sera pas tout de suite, par exemple.
On
va penser à Demidov avant de passer de penser à Jacob Fowler. Demidov, là, c'est un énorme morceau. Là.
Ah, ça va être...
L'admissibilité va commencer le 1er juillet 2026 dans le cas de Demidov, ouais. Et on n'aura pas beaucoup de temps. Parce que après ça, peu de temps après, il y a la nouvelle convention collective qui va entrer en vigueur et l'option du contrat de 8 ans va débarquer. Alors ça va être une négociation aussi très intéressante à surveiller à cause de cette urgence-là.
Ça va être intéressant à suivre. Nick Cloutier, TVA Sport, un immense merci, bonne journée.
Yes.
Bon match ce soir contre les Leafs.
Yes, merci les gars.
Salut, bye-bye. Nicolas Cloutier de TVA Sport, je vous invite à aller le lire sur tvasport.ca. C'est vraiment, mais vraiment très bon ce papier-là. Ça va faire foi de tellement d'affaires, le contrat de Luke Hughes.
Breaking news, Max?
Ah oui, on a ça un thème spécial?
Pas pour le moment, mais il y aura un revenant ce soir. Kirby Dach va jouer son premier match préparatoire avec... Le Canadien,
wow, le plan,
c'est ce
toi.
Que rapportent plusieurs personnes du côté de Brossard, Patrick Friolet, Renaud Lavoie, Marco D'Amico notamment. Je suis content parce que là, il reste 4 matchs préparatoires. Faut qu'on voit Kirby Dach une couple de fois.
Oui.
Pour qu'il arrive au moins dans une forme décente le premier match de saison régulière.
Très bon, on va en parler, on va faire le tour des alignements complets qui devraient sortir dans les prochaines minutes. Mais dans 2 minutes, de l'autre côté de la pause, c'est la Coupe Rider qui commence à Bethpage Black demain, vendredi. On en parle avec Johan Benson. Ouais, et ça, une recette de sandwich à moutarde à venir à BPM dans 2 minutes. Bougez.